Me, I know if you breathe, I want more of you.
Radio de la paix, il est 12h. Journal du Midi, Linda Christelle Ballier.
Heureuse de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Radio de la Paix. Bonjour et bienvenue à tous. 100 000 nouveaux ménages à Dallois ont récemment bénéficié du programme Filets sociaux productifs. Ils ont reçu le paiement lors d'une cérémonie au cours de laquelle la ministre Belmonde Dogo a encouragé les populations à œuvrer pour la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et puis les populations de quelques villages de la région du Tchologon ont reçu les clés de leur nouveau logement. C'était à la faveur de la cérémonie de remise officielle des clés aux bénéficiaires des logements du site de recasement des localités impactées par le projet du port sec de Ferkessédougou. Dans l'actualité internationale, en Guinée, au moins 14 personnes et 190 autres blessées. Au moins 14 personnes sont mortes et 190 autres blessées après l'incendie d'un dépôt d'hydrocarbures à Conakry, selon le gouvernement, dans un communiqué lu hier soir à la télévision nationale. Et puis dans l'invité de la rédaction, le secrétaire général et porte-parole du COGEP, Patrice Saraka, revient sur le récent congrès de son parti et les résolutions qui sont sorties au terme des travaux. Il sera avec Soro Adams en toute fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a organisé à Dallois une cérémonie de valorisation des acquis et de partage d'expériences des bénéficiaires des filets sociaux, couplée au lancement officiel des paiements de 100 000 nouveaux ménages bénéficiaires du programme Filets sociaux productifs. Une occasion pour la ministre Belmonde Dogo et le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, de mieux expliquer et présenter aux populations ce programme social et solidaire du gouvernement. Compte rendu, Jean-Noël Kwame.
Pour la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, il s'agit de renforcer l'action sociale du gouvernement et favoriser le développement en Côte d'Ivoire.
Cette année 2023, 100 000 nouveaux ménages ont été ciblés dans 14 régions. Et pour la région du Haut-Sassandra, nous avons enregistré 13 293 nouveaux ménages, la création de 112 associations de valorisation de l'emploi. Entraide communautaire. Le président de la République et le premier ministre en appellent à consolider les leviers d'une Côte d'Ivoire solidaire où les citoyens voient leurs conditions de vie s'améliorer et bâtissent la cohésion nationale.
Après un défilé des bénéficiaires, le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra, a également salué cette action sociale et solidaire du président de la République.
Lorsque le président Sonouattara nous a fait la pauvreté dans notre pays avait atteint 31%. Aujourd'hui, selon la Banque mondiale, cette pauvreté a baissé. Nous sommes autour de 39%. Ces personnes qui sont ici, les ressources reçues ont permis de transformer leur vie. C'est le visage humain de l'action sociale du chef de l'État.
Le gouvernement ivoirien envisage, dans le cadre du programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux, la prise en compte de 300 000 ménages bénéficiaires sur la période 2023-2025. Jean-Noël Kwame, Dallois, Radio de la Paix.
Notons que de 2017 à ce jour, un peu plus de 27 300 ménages ont bénéficié du programme Filets sociaux productifs dans le Haut-Sassandra. Pour chaque enfant, tous ses droits, c'est le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale de l'enfance tenue au siège de SOS Village d'enfants à Cocody. Pour les différents participants à cette journée commémorative, la promotion pour le respect des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire a connu des avancées, même si des efforts sont encore à faire pour arriver à une totale couverture des droits de tous les enfants. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Mel Emmanuel.
Djabaté Ami, j'ai 17 ans. Avant moi, je faisais apprenti de Baka. Bon, Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis une pâtissière, je fais la pâtisserie.
Comme elle, ils sont près de 650 jeunes filles et garçons issus des couches défavorisées de la société que le projet Tontibagage, initié par SOS Village d'Enfants en Côte d'Ivoire, a réinséré dans le tissu socio-professionnel. Lancé en 2017, le moment était venu pour SOS Village d'Enfants en Côte d'Ivoire de dresser un bilan de l'évolution du projet. Koala Oumarou, directeur national.
On a besoin de mesurer la performance obtenue et aussi évaluer les insuffisances en vue donc de tirer les enseignements nécessaires et faire les ajustements et les corrections adéquates pour être plus efficace possible et aussi voir comment nous allons amorcer les perspectives avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'espoir de réussir ce que nous faisons au bénéfice des enfants et particulièrement des jeunes.
Au menu également de cet atelier, un plaidoyer à l'endroit de tous les acteurs de la lutte contre le travail des enfants.
Le plaidoyer, c'est pour inviter l'ensemble des acteurs à s'unir, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau communautaire, ou au niveau des associations non gouvernementales pour faire en sorte que nous ayons plus de force, plus d'efficacité, pour que nous puissions travailler de manière concertée et de manière cohérente pour espérer davantage de résultats.
L'atelier de capitalisation des acquis du projet Tontibagage s'est terminé par une foire aux produits des bénéficiaires du dit projet.
Merci à vous, Mel Emmanuel. Parlons de journée de réconciliation et cohésion nationale instituée le 5 août 2020 par le gouvernement ivoirien et célébrée le 16 décembre de chaque année. L'édition de cette journée, l'édition 2023 de la journée nationale du pardon et du souvenir a eu donc lieu le 16 décembre dernier à la paroisse Saint-André de Yopougon. En marge de cette célébration, la COVICI, la Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes, qui a eu 10 ans le même jour, a organisé son assemblée générale annuelle. Témoin pour Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
Kanté Lansina, le président du conseil d'administration de la COVICI, la Confédération des organisations de victimes des crises ivoiriennes, a fait les recommandations suivantes.
Au chef de l'État, que la réparation des victimes soit placée au cœur du processus de réconciliation nationale. La publication du fichier unique consolidé des victimes, le vote de l'avant-projet de loi sur le statut des victimes, l'octroi d'une rente viagère aux victimes rendues invalides du fait de la guerre. Au ministère de la cohésion sociale, la COVICI recommande la reprise de la distribution des chèques d'1 million aux parents de victimes décédées. La participation des organisations de victimes dans la conduite du processus de réparation afin de le rendre plus lisible et visible. La mise en œuvre des résolutions de la CDVR et de la CONARIV. Aux victimes, la COVICI recommande le pardon et la résilience.
À la COVICI, le professeur Amoy Urbain, président de l'université Charles lui de Montesquieu, qui a fait une communication, a suggéré ce qui suit.
Que incessamment tous les présidents du collectif se réunissent en un atelier de réflexion. Que cet atelier de réflexion débouche sur un programme national de réparation.
Selon Kanté Lansina, le président du conseil d'administration de la COVICI, le taux de réparation des victimes n'excède pas les 5% après 8 ans de mise en œuvre de la politique d'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes.
Et puis les jeunes du Parlement, des jeunes de Côte d'Ivoire tenaient récemment leur deuxième session nationale parlementaire de l'année 2023. Une rencontre qui s'est tenue du 14 au 16 décembre dernier à Dembokro sous le thème « L'engagement civique de la jeunesse dans le processus de la bonne gouvernance et le développement de la Côte d'Ivoire ». Les réflexions portaient sur les thématiques de la bonne gouvernance, la migration irrégulière, la violence en période électorale et la consommation de la drogue en milieu scolaire et universitaire. Le compte-rendu est signé Émile Yao.
Sur les enjeux de cette rencontre de Dembokro, le président national des jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire, Vaiao Josué, indique.
Les objectifs généraux de cette session parlementaire sont entre autres de donner les rudiments nécessaires afin de parvenir à l'éradication du phénomène de la consommation de la drogue en milieu scolaire, d'amener toute la jeunesse à se référer aux valeurs et aux principes démocratiques, d'amener les jeunes parlementaires à connaître mieux le rôle et l'utilité de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Amener les jeunes à sensibiliser sur les fraudes de la migration irrégulière.
Quatre thématiques à savoir, la bonne gouvernance, la migration irrégulière, la violence en période électorale et la consommation de la drogue à l'école, objet de communication, sont autant de sujets abordés au cours de ces assises. Va Yao Josué.
Les recommandations les plus pertinentes seront consignées dans ce qu'on appellera le livre blanc. Et ce livre blanc sera remis aux autorités compétentes.
Représentant le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, parrain de la session, Doja Maximin salue l'initiative des jeunes.
Ils ont choisi une thématique très importante et d'actualité. Et le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance voudrait les exhorter à aller dans ce sens, afin que notre pays puisse regorger donc de citoyens honnêtes, intègres pour son développement.
Les activités de sensibilisation de masse se poursuivront sur le terrain, a indiqué le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Émile Yao, depuis Dembokro, Radio de la Paix.
Dans le cadre du volet social consécutif à la construction du port sec de Ferkessé-Dougou, les populations des villages de Dekoa, Nawovogo, Soromandjougou, Nomiraso, situés dans la région du Tchologo, ont reçu les clés de leur nouveau logement. C'était à la faveur de la cérémonie de remise officielle des clés aux bénéficiaires des logements du site de recasement des localités impactées par le projet du port sec de Ferkessé-Dougou le samedi 16 décembre dernier. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bonny.
Le projet de construction du port sec de Ferkessé-Dougou a engendré le déplacement volontaire des populations installées sur les sites dédiés à la réalisation des infrastructures. Elles sont désormais réinstallées dans le village de Dekoka-2, dont en voici les caractéristiques selon Abdoulaye Alagui, chef du projet.
Le village de Dekoka-2 est bâti sur une superficie de 20 hectares et demi et comporte 200 villas, dont 188 logements de 3 pièces et 12 logements de 4 pièces.
Quid du coût de ces infrastructures? La réponse avec Amadou Koné, ministre des Transports.
Le volet social du projet du port sec se chiffre à 12 483 millions de francs CFA, dont 7 milliards pour la construction de cette cité et 800 millions de francs CFA déjà payés aux populations pour les indemnités d'éviction des terres agricoles.
Des populations qui réagissent à travers leur porte-parole, Ouattara Issa.
Nous nous engageons à prendre soin de ce beau cadre, espace de bon vivre qui nous permettra de continuer notre vie en société tout en gardant nos mœurs et notre tradition.
Et Tene Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense par ailleurs, président du Conseil régional du Tchologo, d'ajouter.
Chers parents, l'inauguration de ce village moderne témoigne donc d'un juste retour de votre engagement pour le développement.
Après le volet social, le nouveau défi désormais est d'aborder la réalisation de la zone portuaire qui devrait se faire sur 18 mois. De retour de Dekoka-2, Marcel Bonny-Korogo, Radio de la Paix.
Et à l'initiative de l'ANSUT, entendez, l'Agence nationale du service universel et des télécommunications TIC, a eu lieu le 12 décembre dernier au plateau une session réunissant les directeurs des systèmes d'information des ministères et institutions de Côte d'Ivoire ainsi que les acteurs clés du secteur numérique. Compte rendu, Mata Touré.
Face aux défis qui ponctuent le paysage numérique en Côte d'Ivoire, ANSUT se présente comme un rempart pour transformer ces défis en opportunités d'innovation et de créativité. Jules-Thierry Beugré en est le directeur général.
L'Agence nationale du service universel des télécommunications se positionne comme le fer de lance de la transformation digitale. Elle a le devoir d'insuffler une vision d'inclusion, d'innovation, de prospérité. La nécessité d'apporter une réponse stratégique et agile aux enjeux tels que la connectivité, la sécurité numérique, l'évolution rapide des technologies et le développement des compétences numériques est également une priorité constante.
Le lancement de cette édition ANSUT Connect s'est fait en présence de Ekissi Narcisse, directeur de cabinet du ministère de Transition numérique et de la digitalisation.
La cérémonie de ce jour marque un moment historique dans notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub numérique. Elle symbolise notre détermination à fournir une approche concertée pour amorcer la dynamique de la transformation numérique souhaitée par le chef de l'État.
Depuis décembre 2022, ANSUT a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec des innovations majeures. Il s'agit d'une nouvelle vision et d'un nouveau plan stratégique en parfaite cohérence avec les 7 piliers de la stratégie nationale numérique dénommée ANSUT Connect 2023-2025.
Direction Mans où la municipalité avec à sa tête son premier magistrat Aboubakar Sidiki Fofana et Albert Flandé, ministre gouverneur du district autonome des montagnes, viennent d'être primés comme meilleur artisan de paix, cohésion sociale, gage de développement. C'est à l'initiative du Parlement africain de la société civile. Témoin pour Radio de la Paix, Stéphane Adams.
Le président du Parlement africain de la société civile, qui c'est Jean-Claude Drou, revient sur la raison qui a motivé cette action à l'endroit des élus de Mans.
Depuis près de 14 ans, nous décernons un prix chaque année. Pour ce qui concerne le maire de Mans, nous avions bien évidemment relevé quelques actions qui pour nous ont retenu l'attention du comité du prix. Il s'agit principalement des actions de lutte contre la pauvreté, la construction des écoles, des dispensaires, le marché qui préoccupe tant les populations a été renouvelé. L'hôtel communal qui a été construit aujourd'hui devient comme un modèle. Auprès de cela, nous constatons que le ministre-gouverneur ainsi que le roi sont des personnes qui poussent et aident et facilitent le travail du maire dans la commune de Mans. La distinction sont des distinctions d'honneur pour encourager le travail qu'ils font auprès du maire.
Les lauréats à la réception des médailles d'honneur. Aboubakar Sidiki Fofana, maire de Mans.
Le mérite, c'est parce que j'ai avec moi autant de personnes qui sont engagées pour la ville de Mans et qu'ensemble, nous arrivons à faire tout ce que vous avez vu et qui a attiré le regard du monde entier sur nous dans cette petite commune à l'ouest de la Côte d'Ivoire, un grand district de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les conseillers, de tout bord, voilà vos prix. Ce n'est pas le prix du maire. La paix, la quiétude, à Mans et dans tout le Tonkin.
Albert Flindé, ministre gouverneur du district autonome des montagnes.
Je parle sous le contrôle de nos parents avec cette médaille qui est prix d'honneur 2023 du Parlement. Je voudrais vraiment vous dire merci, chers frères, chers fils. Vous inviter à la solidarité.
Une visite terrain des infrastructures réalisées a mis fin à la cérémonie. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sous-régionale, au moins 14 personnes ont été tuées et 190 autres blessées dans l'incendie qui a touché lundi le centre de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays. Le nombre de décès passait de 13 à 14 personnes de nationalité guinéenne et étrangère. 190 blessés ont été pris en charge par les secours et dans les hôpitaux de Conakry, dont 113 ont ensuite rejoint leur famille, a assuré le gouvernement dans un communiqué lu lundi soir à la télévision nationale. Pour rappel, le sinistre est survenu dans la nuit de dimanche à lundi aux environs de minuit 30 heure locale et en temps universel dans le principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry. Retour ici en studio pour l'invité de la rédaction, la dernière articulation de cette édition. Et c'est pour parler du récent congrès du COGEP avec le secrétaire général et porte-parole de ce parti, Patrice Saraka, qui répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour, docteur Saraka Patrice.
Bonjour, monsieur Soro Adams.
Le rideau donc est tombé sur le deuxième congrès du COGEP, votre parti, à Abidjan. Qu'est-ce que les Ivoiriens devraient retenir de ces assises?
Merci, M. Soro. Ce qu'il faut retenir de ce congrès, c'est que le COGEP a fait le bilan de son action politique depuis 4 ans, depuis 2019, où Charles Begoudé a été élu à la tête du parti. On a fait ce bilan et nous sommes projetés pour un COGEP plus fort. Et l'un des points saillants fut l'élection du président du parti, et Charles Begoudé a été réélu à la tête du parti. Et le deuxième organe de notre parti, qui est le conseil de contrôle de discipline et d'éthique également, a vu l'élection de son nouveau président. C'est Dr Étienne Aristide qui est le président de l'organe de contrôle et de régulation du COGEP. C'est donc un COGEP renouvelé qui, sur la base du passé, du bilan de son action des 4 ans, se projette donc à faire de ce parti-là l'un des principaux partis de Côte d'Ivoire. Et les congressistes ont décidé que 2025 sera une année charnière, une année importante pour notre parti, et il faudra compter avec le COGEP. Et ils sont même allés jusqu'à dire que le président du parti, au regard de tout ce que nous avons pu voir, au regard de sa posture d'homme d'État, et il devrait s'apprêter, en tout cas, à répondre favorablement à leur demande, à savoir qu'il peut bien s'engager pour 2025. Et on attend sa réponse.
S'engager pour 2025 comme candidat à l'élection présidentielle?
Mais pourquoi pas, les congressistes pensent que Charles Goudet peut bien être candidat à l'élection présidentielle. Le Congrès n'a pas décidé d'aller aux élections de 2025, mais il dit que Charles Goudet peut bien être candidat en 2025. Donc c'est une décision majeure de ce Congrès et nous attendons la réponse du président Charles Goudet.
Telle est la substance de ces assises du deuxième congrès du COGEP.
Oh oui, il y a certes cette décision majeure, mais il y a aussi que le thème du congrès était « Quel COGEP face aux mutations sociales, politiques et économiques nationales et sous-régionales ?» Nous avons estimé que la Côte d'Ivoire et la sous-région sont en pleine mutation. Au niveau interne, nous avons estimé que plus que jamais, les Ivoiriens, au-delà de toute considération politique, ethnique et religieuse, devaient se rassembler. Et le COGEP, avec son nouveau président, ont pris l'engagement d'être ce pont-là, d'être ce catalyseur-là pour rassembler les Ivoiriens. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de rassemblement. Donc tous les patriotes de tous les camps, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient PPACI, qu'ils soient COGEP, Charles Goudet et le COGEP ont pris l'engagement de faire en sorte que la Côte d'Ivoire plurielle se retrouve dans le Conseil des Nations. Parce que la sous-région, le monde sont en pleine mutation. Les questions de sécurité, les questions de développement, les questions économiques, les questions culturelles, autant de défis que nous devons relever ensemble et non en rang séparé. Et c'est pour cela d'ailleurs que, à marge de notre congrès, nous avons organisé aussi un mini sommet sur le panafricanisme. Les participants, les délégations étrangères venues de plusieurs pays d'Afrique ont convenu que pour relever ces défis-là de défense, de sécurité, et j'en passe, pour relever ces défis, l'Afrique doit être plus que jamais un véritable marché de libre-échange où les citoyens, les biens et les personnes, évidemment, se déplacent librement. Parce que, M. Soro, les visas coûtent non seulement très cher, les barrières douanières font trop de tort à nos économies et nous pensons que l'Afrique doit être un véritable espace de libre-échange. Et donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de dégager des maîtres pour aller à la recherche d'autres maîtres. Il s'agit de considérer l'Afrique comme un pôle qui doit fonctionner selon ses propres paradigmes. Voilà un peu quelques éléments majeurs des décisions issues de ces assises-là. Et ces leaders politiques de ces pays-là ont convenu de se réunir dans le cadre d'une conférence des présidents. Et un comité de suivi a été mis en place et ils ont aussi décidé que chaque année, un mini-sommet plus élargi devrait se tenir. Et le prochain aura lieu en 2024 en République centrafricaine.
Je vous remercie, docteur Saraka Patrice.
Merci, monsieur Soradams.
Je rappelle que vous êtes...
Je suis le secrétaire général du COGEP porte-parole.
C'était à l'instant le secrétaire général et porte-parole du COGEP, Patrice Saraka, invité de la rédaction du jour. Il répondait aux questions de Soro Adams. Et cet entretien met un terme à notre édition dont voici le rappel de l'essentiel. 100 000 nouveaux ménages ont bénéficié récemment du programme Filet socio-productif. Ils ont reçu leur paiement lors d'une cérémonie au cours de laquelle la ministre Belmonte Dogo a encouragé les populations à œuvrer pour la réduction de la pauvreté. Et puis les populations de quelques villages de la région du Tchologo ont reçu les clés de leur nouveau logement. C'était à la faveur de la cérémonie de remise officielle des clés aux bénéficiaires des logements du site de recasement impacté par le projet du port sec de Ferkessédougou. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 15h. D'ici là, retrouvez Jean-Claude Decomé qui s'est chargé aujourd'hui de parcourir pour vous les unes de vos quotidiens, notamment c'est dans la revue de presse.
Bonjour à tous. Après le rendez-vous manqué du samedi 16 décembre dernier pour cause de suspension de son congrès extraordinaire par décision judiciaire, le PDCRDA se remet en selle avec la tenue ce mardi 19 décembre d'un bureau politique convoqué en urgence par le président intérimaire Kopi Boni, car, constate soit rien faux, le PDCI ne veut pas perdre du temps après l'empêchement de son congrès extraordinaire. Et une situation qui a fait réagir dans une vidéo postée sur PDCI TV, écrit le journal, le président du PDCI qui a rassuré que le parti s'organise activement pour mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à la poursuite.